Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième podcast signé Skynet. Ce soir, avec nous, nous avons trois invités. Alors, je vais vous présenter, mais vous le connaissez déjà, Mathias Arens, alias First One, ou Instinct. Bonsoir Mathias.
Bonsoir à tous.
Nous avons aussi deux émissaires francophones, donc Antodev, pareil, la dernière fois était présent.
Salut.
Et Torgul.
Salut.
Donc, le premier sujet de ce soir, ça sera l'exclu de la semaine. Enfin, ça dépend des points de vue. Pour moi, c'est l'exclu de la semaine, puisque ça sera l'ouverture de l'annuaire de Skynet. On va aussi discuter des trois escouades francophones qui sont plus ou moins présentes et plus ou moins actives en ce moment. Et puis, du départ d'Herman Petterscheck, de l'arrivée de Lance Robertson, et à la fin, donc, le gros débat, qui est l'actu générale de la semaine. Les différentes interviews que Lance Robertson a voulu communiquer. Donc tout le monde va bien là ce soir ?
Oh ça oui, va, ça va. Ça va.
Tranquille, une petite semaine bien cool.
Ouais, plutôt chargé, ouais.
Assez
plutôt.
Cool, ouais.
Si vous le voulez bien, on va rentrer dans les sujets alors.
Je sais pas.
On peut. T'as les codes d'accès ?
Les codes d'accès, ça dépend. Tu me files une clé alpha pour la pour le jeu ? D'accord.
Alors, le login, c'est Brubru, je t'adore. Et le mot de passe, c'est...
Tunnel. Attends, je vais chercher une passoire. Voir si ça marche comme sur Canal+. Essayer de filtrer le code.
Une passoire
donc,
Canal+.
Voilà.
D'accord.
Une passoire Canal+, tu ne connais pas ça ?
Non.
Bon, je t'expliquerai après, après l'enregistrement. Alors. Donc, on va commencer les sujets. Cette semaine, Skynet s'est finalisé avec l'ouverture de l'annuaire, donc vous l'attendiez. Hein, on a eu quelques petites remarques, pourquoi l'annuaire n'est pas là, qu'est-ce qui se passe. Ça y est, il est ouvert. Donc en même temps que vous écoutez le podcast, je vous invite à aller sur le site et à cliquer sur l'onglet annuaire. Je vais comme ça vous faire un petit rappel sur son fonctionnement. Vous avez deux parties, une partie pour les fansites, donc on clique sur les fansites, et vous pouvez en voir déjà trois. JumpGate Evolution jeu online, avec notre ami Antodev en tant qu'administrateur. JumpGate Evolution World, là c'est Dryana qui s'en occupe. Et Setix Gate Jumper, qui sera... Alors, c'est un site déjà ouvert, c'est pour les futures vidéos in-game du jeu en fait. Donc c'est Nek, alias Setix, qui s'en charge. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais c'est normal, le jeu n'est pas sorti. Ensuite, retour sur l'annuaire. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel sigle des squads, prenons le premier, les Cantards. J'ai rempli la première escouade francophone, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est Predicatorem. En fait, finalement, non, on peut en parler tout de suite d'ailleurs. Ça sera aussi
ouais.
Ça. On est dans l'annuaire des escouades, donc on va faire le sujet des escouades en simultané. Predicatorem n'a pas encore de forum. C'est Taiji Ki qui s'en occupe, qui sera le squad leader. Donc, Kantar, comme je viens de vous le dire, on n'a pas encore trop d'informations dessus, il faudra attendre un petit peu. Des remarques déjà, messieurs, sur cette escouade, sur ce que vous avez pu lire ?
Ça sera où l'église ?
D'accord.
Une église spatiale.
Ça pourrait avoir ta gueule.
On sait jamais, hein.
Moi, je trouve que le leader qui se qualifie comme illuminé des débuts, ça promet.
Ouais. Effectivement, ça peut...
C'est bien Kantar, tu vois, c'est...
Il est bien voilà, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans l'esprit Kantar, ça peut faire peur. Dans le cas inverse, je sais pas trop comment les gens le perçoivent.
Ça peut faire peur dans les deux cas aussi.
on peut demander, il y a quelqu'un qui est pro-Kantar parmi nous ?
Ouais.
Torgul ?
Ouais, c'est moi.
Vas-y, dis-nous un peu plus, pourquoi ?
On n'en sait pas grand-chose encore de cette escouade, donc on peut pas en dire grand-chose, mais bon... Effectivement, et déjà, il a l'air d'avoir le bon état d'esprit, moi, au niveau du chef.
D'accord.
Par rapport à la philosophie Kantar.
Et toi, surtout ouais. Toi, Torgul, pourquoi Kantar
ouais. Parce que j'ai, comment dire, d'abord le background, tout l'aspect minage. C'est vrai que j'ai une tradition, quand je jouais dans des MMO Fantasy, de jouer nain mineur. Et ça reste plus fortement que le reste, donc
d'accord.
Je pense que déjà, c'est un bon départ.
D'accord.
Moi je me demande ce qu'il demande en disant « recrutement de joueurs psychiquement stables ». Je me pose des questions.
Ça veut dire que Brunner, tu peux en faire partie, par exemple.
Ah, voilà. Très drôle, oui.
Non, juste le leader a pas l'air psychiquement stable lui-même.
Voilà, c'est en fait, il a besoin de gens qui sont normaux pour le contrôler, si tu veux, ou pas qu'il fasse trop n'importe quoi. Non, là, je suis méchant contre Taji.
Non, c'est pas de la méchanceté, il le dit lui-même, c'est un illuminé. Donc, en même temps, on ne fait que dire ce qui est écrit. Mais non, il va apprécier, je pense, cet humour. Taiji, si tu nous entends.
On t'aime.
Oublie pas les néons verts hein, sur ton vaisseau.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ça va être du vaisseau custom qui coulole. Voilà.
Au double sens, illuminé, tout ça.
Ah, bien vu. C'était la vanne de...
Il y a de l'esprit ce soir, dis donc.
Ah, c'est oui, bien, c'est garanti.
Et d'autres cantards parmi nous?
Oh, non, je crois que Didier l'est, mais comme il est pas là.
Ouais, d'accord.
Par contre, j'ai une question, et je pense que TJ répondra au prochain podcast. Quand tu regardes la Phoenixus, tu as trois petites mentions à droite, il y a marqué PVP, PVE, RP. Oui. Par contre, Predator Corem, tu n'as pas ces mentions-là. Est-ce que c'est parce que TJ ne sait pas encore ce qu'il va faire?
Non, pas du tout. Donc là, c'est une boulette du gars qui a mis ça en ligne, qui s'appelle Brunière. Donc,
j'irai le taper.
Et tout à fait. Non, c'est un oubli.
Tu fais un mouvement de gauche vers la droite sur ta joue.
Pas tout de suite, sinon j'explose le micro.
D'accord.
Après le podcast, je me charge de tout ça.
Non, et, okay.
De mémoire, je vais ouvrir le forum pour retrouver son topic, mais je crois qu'il est complet en fait.
Donc il fait les trois en fait. Roleplay, ouais, PVP, PVE. D'accord.
C'est bien ça. Donc il a les trois. Faudra que je corrige ça, désolé.
Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on va voir GGO World qui va, enfin plutôt FDA, qui va passer en Soul Reign?
Alors, ben, j'allais y venir justement. Donc,
Je te vole la bouche.
Ouais, non mais c'est bien, ça fait une jolie transaction.
C'est une bonne transaction. Ouais, transaction.
Transaction, ouais.
Exactement. Bon, on coupera, hein, je répète.
Voilà. Deux fois trois minutes quand même. Hein.
Une belle transition vers le prochain sujet.
Tout à fait. Donc, la FDA, si vous cliquez sur l'annuaire Solrein, vous n'avez rien encore de rentrée, et je vais vous expliquer pourquoi.
C'est pas Solrein, c'est Solrein. Oh là là.
Alors, moi je dis Solrein, Solrein, ça dépend des jours, de l'humeur. Est-ce qu'il y a une norme, je sais pas.
Non, mais ça dépend. Bah, en fait, Solrein, c'est l'expression, enfin la formulation en anglais.
Ouais.
En français, bon, bah tu peux le prononcer comme tu voudrais.
Oh oui, ça sonne dur en anglais, non.
Il y en a qui vont dire Solrein.
Bah, ça dépend, Solrein gros bourrin, Solrein.
J'aime bien.
Ouais, mais j'ai pas trouvé mieux sur le moment.
C'est des intellectuels. Hein.
Je la noterai pour la prochaine fois. Donc, je vous explique. La Fédération d'Holoxia, alias FDA, comme la plupart des gens la connaissent, a récemment pris la décision de se prononcer Solrein. Voilà, je vais faire.
Il y a un métro du monde.
Solrein, donc. Et de par ce fait, a aussi choisi de modifier son nom. Donc c'est pour ça que j'ai encore rien rentré dedans. C'est parce que la FDA ne va plus exister. Ça va être un nouveau nom que je ne connais pas ce soir encore.
Je crois que personne ne le connaît au sein de la FDA.
le
nouveau nom.
Mes informations me disaient que ça devait être décidé cette fin de semaine-là. Donc Torgul, toi qui es toujours là-bas, est-ce que tu as des infos là-dessus?
Non, j'ai pas d'infos pour l'instant.
D'accord.
Je sais juste que Dryana avait l'intention, s'il me semble, de garder FDA pour nommer les trois groupements.
Voilà, j'allais y venir. Tout à fait.
Mais aussi qu'on explique aux auditeurs que la FDA, c'était une des premières, même la première guilde francophone pour Shungate. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup.
Ouais. Exactement. Ouais. C'est ce qui a elle a réussi à réunir entre 50 et 70 joueurs au cours d'un an et demi. Mm-hmm. Bon, il n'y en a plus autant maintenant parce que bah, les gens vont et viennent. Mm-hmm. Mais... ça a été effectivement le premier regroupement massif. Et donc, on veut se servir de ça, de la Fédération d'Holoxia, comme background pour expliquer les origines des trois nouvelles escouades francophones, Predicator, Phoenixius et la future escouade Solrein dont on ne connaît pas encore le nom.
D'accord, la FDA 2.
Voilà. Alors par contre, que les auditeurs ne se méprennent pas, ça n'est pas une annonce d'alliance que nous faisons là. C'est un background commun.
Ouais.
Alors tu peux dire que c'est une annonce de conflit presque.
Une alliance de conflit, non, pas enfin on verra. Je suis toujours pour me mettre sur la gueule, mais ça c'est mon côté octavien qui veut ça. Donc voilà pour la FDA. Et je crois, Torgul, tu vas me le confirmer, que vous devez être entre 25 et 30, mais encore Solrin, Kantar, pas tous confirmés, c'est ça?
Pas tous confirmés, non, parce que, y a Draya qui a fait un appel à la confirmation des actifs, mais y en a qui répondent pas tout de suite, il y en a qui répondent en retard, donc c'est un peu difficile de savoir le nombre exact pour l'instant.
D'accord. En Todev, je crois que tu es toujours là-bas, toi aussi.
Pour l'instant, je suis neutre.
Neutre avec une appartenance ou...
Non, j'hésite entre Sol Rein et Octavien.
Bon, je ferai pas de la propagande ce soir. Mais les Octaviens, venons-en, tiens, justement. Encore une belle transition.
De rien.
Donc.
En fait, c'est tout écrit, on doit juste prononcer les mots un par un.
Voilà, ouais.
C'est préparé par Bobu dès le début.
Donc, les Octaviens, vous pouvez cliquer donc sur l'icône Octavien dans l'annuaire. Vous avez donc Phoenixius, la première escouade Octavienne francophone qui a été créée. Dont je suis le squad leader. Actuellement, Phoenixus est en pleine effervescence de membres. On a recruté ces 10 derniers jours 5 membres, plus un nouveau postulant qui est en cours. C'est une escouade qui va se vouloir dans le futur, quand Gigeux sera sorti, une grosse corporation autonome. J'entends par là, on va tâter un peu tous les aspects du jeu, et on veut fonctionner en complète autarcie en fait. C'est-à-dire qu'on aura nos producteurs, nos... On veut pas être 500 dans l'escouade, mais qu'on arrive à se débrouiller facilement avec les effectifs que l'on aura. Donc, PVP et PVE, on a ouvert récemment le RP libre. Donc RP libre, c'est qu'on ne force pas les gens à participer au RP, mais tous les officiers, eux, d'eux-mêmes, feront participer les squads d'une façon RP.
Et niveau hiérarchie, c'est... un maître ou style sa conseil d'administration
tout à fait. Ah oui, tout à fait. Non, effectivement, je voulais parler de ce point-là en plus. On a décidé de reprendre le côté donc romain qui connaît bien au côté octavien. Herman en avait parlé une fois. Et c'est-à-dire que nous avons le gros des troupes qui sont les légionnaires. Nos chefs d'escadron pendant les sorties massives seront les décurions. Donc on peut les considérer un peu comme des sous-officiers. Ils auront un gros rôle lors des sorties massives.
Ce sont des chefs d'escouade. Hein.
Ouais, je dis escadron, moi, parce que c'est des escadrons, oui, des escadrons 6, oui. Mais bon, c'est vrai que les termes sont pas trop appropriés encore. On verra ça quand le jeu sera sorti. Et tout au-dessus, donc, nous avons les officiers, donc moi-même, plus les centurions, qui sont là pour faire toute la gestion et l'organisation du site, ainsi que des personnes qui servent de référence. C'est-à-dire qu'on veut que nos joueurs s'amusent dans le jeu, n'aient pas trop à se prendre la tête à réfléchir sur où aller chercher les informations. On veut tout leur apporter du mieux que possible. Donc avoir toutes les connaissances du jeu au niveau des officiers.
Au niveau des officiers, il y en a un qui sera au-dessus du lot ou c'est vraiment tous égaux?
Alors, au niveau de mon statut, je suis au-dessus des autres, mais c'est simplement sur le papier.
D'accord.
J'ai donné carte libre à mes officiers, j'ai une totale confiance en eux, et ils prennent leurs propres initiatives. Ce qui n'empêche pas, par contre, que l'on communique tous ensemble, pour savoir non plus, pour pas que ça déconne trop, qu'on parte dans tous les sens, quoi. Mais ils ont vraiment carte libre. J'ai perdu le mot que je cherchais. C'est. Il y a un terme. Ils prennent leurs propres initiatives, voilà.
D'accord.
Ils sont autonomes.
D'accord. Ils sont autonomes. C'est ce que je leur demandais. C'est des gens motivés que je voulais. J'en ai eu deux très bons en plus de Jaco qui était là dès le départ. Donc il y en a deux très bons qui sont venus. Et pour le futur, pour la bêta et la release, il restera une place d'officier accès transport commerce.
D'accord.
Donc c'est Antodev, tu hésitais entre Solrin et Octavien. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce côté-là? Pourquoi pas l'autre?
Alors, Octavia, c'est pour le côté gros bourrin.
Merci.
Parce que je suis pas très très fin niveau.
T'es dans la finesse.
Voilà, exactement. Dans les MMO, je suis plutôt celui qui tape fort. Même si je suis plus mage que guerrier dans les jeux Medfan. Mais je préfère taper que faire du support.
D'accord.
Et niveau RP, j'aime bien aussi. Par contre, il faut dire quand même que les vaisseaux Solaren, ils ont sacrément la classe.
Ouais, tout à fait.
Par contre, leur background commercial me gêne un peu, mais. Je peux toujours m'arranger avec ça.
Et le niveau, le skin des vaisseaux Octavien, non, ça te...
Je trouve légèrement trop... comment dire... Anguleux.
Massif. Anguleux.
Anguleux, ouais, c'est pas faux.
Il y a beaucoup de, comment dire, d'arêtes fortes sur les vaisseaux.
Non, c'est sûr. C'est attirant pour moi qui suis pro-octavien, mais je comprends.
Après, il faut voir aussi sur d'autres modèles de vaisseaux, parce qu'on en a pas vu quand même beaucoup.
Ouais.
Bah, apparemment, bah, on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai cru lire qu'ils étaient apparemment tous finis, les vaisseaux, là. Ou sur le point d'être finis.
Ah, on les a pas tous vus, à mon avis, aussi.
Non, pas.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Même s'ils sont tous finis, on n'a pas encore montré tous les modèles.
Ça pourrait être une bonne exclue prochainement. Je pense que ça attirerait beaucoup plus de monde que excuse-moi, Mathias, que les trois derniers screenshots.
Comment? Non, mais t'as raison de le mentionner. Et c'est,
C'est sans méchanceté, mais c'est vrai qu'ils apportaient pas grand-chose, ces trois-là.
Bah, c'est toujours c'est visuel, quoi. C'est vrai que ça montrait pas des trucs incroyables, mais c'était joli à voir, c'était un petit bonus. Mais tu as raison, hein. C'est justement un point sur lequel on est en train de plancher, sur la présentation des modèles de vaisseaux. Donc on verra quand est-ce que ce genre de vidéo pourra être diffusé.
Ouais.
Mais c'est quelque chose auquel on pense très fortement.
D'accord, il n'y a rien de sorti pour l'instant, d'accord. Vous n'avez rien décidé, c'est en projet.
C'est en projet.
D'accord. Bon, ben, au plaisir, on espère que si ça se trouve, ça sera pour janvier, pour le prochain podcast, on pourra peut-être en discuter.
Ça serait possible aussi une vidéo de gameplay, tout simplement.
C'est également quelque chose auquel on pense. Mais pour ceux qui veulent vraiment se renseigner, pour l'instant, c'est toujours le site officiel qui contient les trois classes principales, les vaisseaux légers, les chasseurs et les croiseurs. Et ça leur permet d'avoir un aperçu, parce qu'il y a quand même quelques modèles qui sont présentés.
Les artworks sont jolis.
Ouais, ça c'est vrai. Ouais.
Faut pas hésiter à aller les voir d'ailleurs. Et je passe un message général. Il y a des concept art et des artworks un peu planqués sur le site officiel. Il faut pas hésiter à aller les voir, ils sont magnifiques. Il y en a beaucoup qui ne les connaissent pas. Ouais. Donc il faut bidouiller un peu.
Les vaisseaux capitaux sont pas mal faits.
Ouais.
Ouais.
Et ils sont impressionnants aussi.
Ah bah, le vaisseau capital Octavien, très anguleux, hein, en effet.
Ouais. C'est
vrai. Mais alors, ça me donne envie de me balader entre toutes ces formes, quoi. Non.
S'il te plaît, Seigneur.
À double sens.
Je sais pas, est-ce qu'il y a un terme général pour dire acte sexuel envers un vaisseau spatial?
Bah écoute, tu viens de l'inventer.
Ah là là. Bon, avant de dire plus de bêtises, on va entamer le prochain sujet. Mathias, tu vas nous parler donc du départ d'Herman Petercheck et de l'arrivée de Lance Robertson, s'il te plaît.
Oui. Donc, alors pour ceux qui nous écoutent pour la première fois ou pour ceux qui ne connaissent pas encore. Qui ne connaissait pas Herman, c'était le producteur de Jungate Evolution, qui était là depuis le début, qui avait fait partie de l'équipe qui avait commencé à développer sur le jeu. Et en novembre dernier, le 30, il a posté un message d'adieu parce qu'il quittait l'équipe pour travailler sur de nouveaux projets, toujours dans le milieu du jeu vidéo. Et en fait, c'était juste un moment pour lui pour aller voir sur d'autres horizons, et il avait d'autres projets en tête. Donc on ne sait pas exactement dans quelle société il va travailler, mais ce qu'on sait, c'est qu'il reste dans le milieu du jeu vidéo. En revanche, ce qu'on a appris aussi une semaine avant, c'était qu'il y avait un producteur exécutif qui venait dans l'équipe de NetDevil, les développeurs du jeu, et Lance Robertson, ce monsieur s'appelle, et il a fait partie de l'équipe qui était en charge de Dark Age of Camelot, ainsi que Warhammer Online. Donc il a vraiment vu deux cycles de développement de deux MMO qui sont assez connus, et même si Herman est parti, on a l'arrivée de Lance. Donc on verra si l'expérience de Lance va pouvoir apporter plein de choses positives au développement du jeu.
Alors, il y a une question que beaucoup de monde a posée. L'arrivée de Lance et le départ de Herman ne repoussent en aucun cas les délais du jeu.
Le développement suit son cours, hein, comme c'était normalement. C'est sûr que Herman a fait partie de l'équipe, donc forcément ça a un impact. Par contre, le fait que Lance arrive dans l'équipe, ça a aussi un impact positif. Donc... C'est un changement, mais ça va en rien avoir un impact majeur sur le développement du jeu.
D'ailleurs, ça pourrait être même positif, vu qu'il a déjà bossé sur un MMO avec trois factions, Dark Age of Camelot.
C'est vrai.
Oui, tout à fait.
C'est vrai, il va apporter Jungate. Expérience. Bien sûr. Bah oui, effectivement, parce que Jungate a le même système, sauf que c'est dans l'espace, et que c'est... Bien sûr, c'est un peu différent, mais c'est la même mécanique, avec... trois factions qui se tapent sur la figure, alors que Warhammer Online par exemple c'était que les deux nations. Donc ouais, je pense qu'il va pouvoir utiliser cette expérience sur Dark Age of Camelot sur Jungate Evolution,
ce qui serait pas mal, hein, tout à fait. Mm-hmm. Et puis On sait aussi que Warhammer n'a pas forcément été un jeu très exceptionnel de certaines erreurs, et ces erreurs, justement, ça lui donne de l'expérience pour Jumpgate, des choses à ne pas reproduire. Donc, il y a eu beaucoup de critiques négatives à ce niveau-là, mais la plupart des gens apprennent de leurs erreurs, et que Warhammer s'est planté de cette façon ne veut pas dire que Lance va nous planter Jumpgate.
Ah bah non, c'est pas bien.
Non mais...
Alors ça pourra peut-être prouver qu'il est plus à l'aise avec des jeux à 3 factions
aussi,
qu'avec
oui.
Deux. Oui,
c'est ça. Ce que ça donnera sur...
Bah, faut Jumpgate. Reconnaître que des jeux à 3 factions, il n'y en a pas des masses non plus.
Non, c'est sûr.
Il préfère pas s'aventurer sur ce terrain-là, on dirait, le développeur, à chaque fois.
Bah, ça fait beaucoup plus de monde.
Bah c'est plus difficile à équilibrer, peut-être.
Le fait ouais, que oui, ça, je m'en doute.
C'est facile. Tu dis juste, bon, bah, un guerrier de ce côté-là, un guerrier de ce côté-là, un mage là, un mage de ce côté-là. Alors que si t'as trois factions, c'est vraiment faut équilibrer à fond, parce que s'il y a une faction qui est trop puissante, les deux autres nations vont sûrement s'allier pour déloger la faction qui est en majorité.
Sans être de mauvaise foi, Blizzard, ça fait 6 ans qu'ils sont en train d'essayer d'équilibrer World of Warcraft au niveau des factions. Hein.
Mmh. C'est ouais, c'est, ça montre à quel point c'est difficile.
Donc...
Non mais ça montre à quel
oui,
point c'est
tout
difficile.
À fait, ouais.
Dès qu'il y a un nouvel item, ou dès qu'il y a une nouvelle race, ou une nouvelle classe, ou n'importe quel changement peut apporter un déséquilibre dans le jeu.
Justement, par rapport à ça, je vais faire une petite parenthèse sur le sujet. On sait que Blizzard a beaucoup remanié son jeu, donc World of Warcraft, de l'avis des joueurs. Beaucoup de joueurs se plaignaient d'un mauvais équilibre, des difficultés qui n'étaient pas forcément justifiées. Et ces réflexions n'étaient elles-mêmes pas justifiées parce que c'était qu'une minorité qui s'exprimait. Est-ce que... alors, du coup, ça a un peu, de mon point de vue, pourri le jeu, parce qu'à chaque fois, c'était remanier les classes, remanier les défis et tout ça. On ne va pas sur ce terrain-là avec Jumpgate.
Bah, c'est toujours difficile parce que... Enfin, on n'est jamais... Si tu veux, on n'est jamais content. Si, par exemple, il y a un groupe qui va sur le forum et qui est très vocal, qui n'arrête pas de dire « Cette classe-là, elle est trop nerfée, elle n'est pas assez puissante, il faut que vous lui rajoutiez des missiles plus puissants, et ainsi de suite. » Et imaginons que les développeurs disent « D'accord, c'est vrai, la classe, elle est trop puissante, on va la changer, on la rend plus puissante. » Et après le changement, une semaine plus tard, tu vas avoir un nouveau groupe qui va se créer, d'autres joueurs qui vont dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait avec cette classe? Elle est bien trop puissante maintenant, il faut la remettre en arrière, et ainsi de suite. » Donc si tu veux, t'auras toujours... c'est très difficile d'avoir l'équilibre parfait. C'est même impossible, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait.
Donc la question, c'est... Voilà, il y aura toujours des gens qui voudront nerfer ou au contraire rendre une carte plus puissante. Et la question, c'est de laisser un petit peu la liberté aux développeurs de se rendre compte, parce que eux, c'est eux qui connaissent le jeu sur le bout des doigts en général, vu qu'ils ont passé du temps à le développer. Mais c'est aussi de savoir faire la part des choses. S'ils voient qu'il y a un groupe de personnes, une minorité qui est très vocale, mais ça reste une minorité, il faut qu'ils fassent attention. Il faut qu'ils sachent que, d'accord, c'est un groupe qui n'est pas content, mais si on cède à leur changement, il y a une majorité de joueurs qui va revenir vers nous, qui sera en colère. Donc il faut toujours rester assez objectif. Et c'est difficile, hein, je ne dis pas que c'est facile.
Oui.
Mais bon, c'est vrai que
d'ailleurs,
c'est...
D'ailleurs, il sera envisageable de faire des séances de test avec les plus grosses guildes du serveur pour...
Là, je peux pas trop t'en dire parce que c'est vrai que c'est plus le choix des développeurs. S'ils veulent faire des tests de charge spécifiques aux guildes ou des choses comme ça,
des déséquilibrages plutôt de vaisseaux, je parlais.
D'accord, d'équilibrage. Ouais, bah écoute, ça serait une bonne idée parce que à ce moment-là, t'as deux équipes qui se connaissent bien, qui se parlent entre elles, donc enfin, pas entre les équipes, mais qui se parlent entre les membres. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal. C'est une idée intéressante.
Pour vérifier si effectivement il y a des équilibres ou pas entre différents vaisseaux.
Voilà, c'est sûr. Oui, parce que si tu fais participer genre 50 joueurs, 25 de chaque côté, et que les joueurs ne se connaissent pas, ça va être un petit peu le bordel. Il y a tout le monde qui va tirer dans tous les sens, personne, ou alors à moins qu'il y ait un leader né qui émerge et qui chatte en vocal.
Je suis là.
Vraiment, voilà, c'est ça. tout le monde va commencer à tirer un peu n'importe comment. Avec des guildes, elles se connaissent déjà entre elles, donc ça marche mieux, c'est mieux huilé, si tu veux. Tout le monde connaît son rôle.
Alors, j'ai une question par rapport à cela. On a vu qu'il y avait une grande possibilité de customiser son vaisseau au niveau équipement. C'est-à-dire qu'avec le craft qui va être disponible dans Jumpgate, deux vaisseaux identiques, style deux forceurs de blocus, avec un équipement complètement différent, n'auront pas le même statut. Donc l'équilibre n'est pas réel entre ces deux vaisseaux, finalement. C'est juste une question d'équipement.
C'est pas seulement une question d'équipement, c'est aussi une question de... Bah, si tu veux, tu auras des statistiques de base avec chaque vaisseau.
D'accord.
Donc, un type de vaisseau aura une armure plus renforcée, Et si tu veux, avec les objets, tu pourras le peaufiner. Mm-hmm. Tu pourras l'accentuer sur l'attaque, ou alors l'accentuer sur la défense, ou alors accentuer sur la guerre électronique, ce genre de choses.
D'accord.
Donc, mais, enfin, pour prendre un exemple très simple, si tu veux être très rapide et faire de la reconnaissance, bah, tu vas pas prendre un croiseur. Tu vois.
Oui.
C'est pas un, c'est pas un vaisseau qui. C'est pas un vaisseau qui s'y prête. Tu prendras plutôt un vaisseau de reconnaissance, un vaisseau léger, un chasseur léger à la limite, mais pas un croisé ou un chasseur lourd, quoi.
D'accord.
Donc, bien sûr, les items, les objets auront une influence, mais aussi la classe, la catégorie de vaisseau que tu vas prendre.
Très bien. Donc maintenant, nous allons passer au débat, toujours concernant Lance Robertson et notamment ses deux interviews. Cette semaine, alors plus précisément aujourd'hui, il y a eu l'interview sur le site, sur le fan site Joel. Donc Antodev nous l'a traduite et l'a mise à disposition. Et nous avons eu aussi en début de semaine une interview sur mmorpg.com, donc en anglais, qui a aussi été traduite. Et nous allons débattre sur les questions-réponses de ces deux interviews. Antodev, je t'en prie, commence.
D'accord, donc grâce à monsieur Mathias. J'ai pu avoir la chance d'interviewer Monsieur Lance Robertson, même si c'était à distance. Donc, on va passer directement à l'essentiel. Donc, au niveau des questions intéressantes, donc je lui ai demandé ce qu'il avait terminé dans le jeu. Donc, on apprend que le moteur de rendu est terminé. Donc, c'est le moteur graphique, tout ce qui gère niveau artistique. Ils ont aussi terminé l'intégration d'un système de physique amélioré. On a vu, c'est pour le système d'amortisseur et autres. Si je ne me trompe pas, Mathias.
Ça en fait partie. Ouais. Mais le moteur physique en général, par exemple, c'est plus pour les missiles. Le fait que les missiles explosent à distance et vont avoir un impact sur le vaisseau qu'ils ciblaient.
D'accord.
Mais d'accord.
Bon. Ça en fait seulement partie. Hein. D'autres éléments du moteur graphique, c'est quand tu tapes contre un astéroïde, par exemple. Enfin, oui. Le classique du classique dans un moteur physique, c'est la réaction physique entre deux objets.
Donc, concrètement, la collision, là.
Voilà.
La collision.
La collision qui est un grand sujet, d'ailleurs.
Ouais, c'est pour ça que...
Je sens bien ta petite pique. Tu me disais, ah bah non...
Ah bah, ça s'y prêtait complètement.
C'est vrai,
là.
Oui, c'était une parfaite transition.
On ne reviendra pas sur ce fameux sujet tout de suite.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de débats sur le forum officiel et sur le forum de jeu online où on discutait justement de la possibilité des collisions entre vaisseaux spatiaux, entre vaisseaux et astéroïdes, entre vaisseaux et stations, entre vaisseaux et
capsules. Bien sûr, on les avait déjà.
Ouais.
J'en profite, chez Phoenixius, là en ce moment, on est tous en train de se mettre sur Freelancer ou se remettre pour ceux qui avaient déjà joué. Et quand je me cogne contre les autres chasseurs, mais je suis content quoi. Je suis vraiment content. Et donc c'est pour ça, je croise les doigts pour
que
je me
gagne. En même temps, t'es pas doué, hein, parce que si tu te cognes contre un autre vaisseau...
Non, mais... Oh, ça va. Hein. C'était une façon de parler.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ouais.
Tu connais la méthode Bélier italienne?
Voilà, c'est ça qu'on redoutait.
Exactement.
Bon. Dans n'importe qui.
J'ai vos noms, je vous croiserai forcément dans le jeu.
Sur l'écran avec un rire machiavélique, genre.
C'est... Ouais, c'est ça.
Comme avec les besoins des auto-tamponneuses. Celui là, tiens, il va prendre ça.
T'as pas grand chose à dire parce que je crois, Mathias, que t'es assez pro Octavien aussi, non?
Un petit peu, j'aime bien leur côté romain comme toi.
Ouais, d'accord. Ouais. Donc, on ne reviendra pas dessus.
J'aime les Trois Nations.
Ouais, ou Kantar.
Ouais.
Les poissons. Les fameux poissons. Enfin bon, excusez-nous, hein, on est un peu hors sujet là, ça fait du bien aussi. Donc on va reprendre sur... on parlait de la physique améliorée.
Ouais, on parlait de ce qui était terminé dans le jeu. Enfin, a priori. Hein. Donc aussi que le système d'émission a été complètement remanié. Donc ça concerne ce qui avait été dit avant, le système de progression dans les quêtes.
C'est ça, ouais. On en avait déjà parlé pendant le dernier podcast d'ailleurs.
Ça en fait partie, il y a quoi d'autre? Si tu peux nous le dire. Hein.
Bah non, mais je crois que t'as bien résumé, hein. C'est ça qui est terminé.
D'accord. Donc aussi, on parlait des modèles de vol, hein, qui seraient en grande partie accomplis. Donc ce serait la manière dont réagissent les vaisseaux.
C'est ça. C'est ça. C'est le feeling que tu auras quand tu conduiras. Pardon, quand tu piloteras. Toujours la petite. Conduira, c'est pour les voitures, c'est pas pour les vaisseaux. Donc le feeling que tu auras quand tu pilotes par exemple, un vaisseau de transport qui est lourd, lent, peu mobile, et en revanche, où tu contrôles un chasseur léger qui est lui très rapide, très flexible, très mobile. Ou par exemple, quand tu enclenches le boost, les effets visuels, le poste de pilotage qui vibre un petit peu au début, ce genre de choses, ce genre d'effets qui donnent plus d'immersion.
Oh, justement, les postes de pilotage, hein. Où est-ce que ça en est?
Quel poste de pilotage?
Là, ça, j'ai coincé.
Non, mais ce que je voulais dire dans les postes pilotage, c'est le vaisseau que tu vois à la troisième personne.
On va retenir la déviation de sujet.
On l'a vu hein, sur une vidéo avant.
Il y a eu un petit leak.
On en a vu une ébauche. Ouais.
C'était une ébauche très très.
Ouais, je pensais me faire le même style de cockpit en carton-pâte en fait. Parce qu'il avait l'air assez simple celui-ci. Donc...
Oui, il avait l'air sympa en plus. Hein. Bien simple en fait. Hein.
Donc ensuite, on parlait de ce qu'il prévoyait pour les prochains mois.
Ouais.
Donc apparemment, ils sont en train de beaucoup bosser sur le PVP et sur le PVE. Enfin, ouais. C'est les sensations de combat.
Ajout de mission, ajout de contenu.
Enfin, tout ce qui est normal, quoi, durant cette phase. Hein.
Ouais.
Vu qu'il faut gagner des niveaux, quand même, il faut
jouer, avoir quelque chose. Ouais, bien sûr.
Le bash, c'est pas super drôle, quand même.
Réduire. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait que le mode PVE et le mode PVP seraient mêlés, si tu veux. C'est que le mode PVE serait une bonne progression pour t'expliquer l'univers du jeu, et qu'ensuite le mode PVP serait lié au mode PVE.
Oui.
C'est-à-dire que
on
peut imaginer des missions PVE qui ne sont réalisables que dans les espaces PVP, par exemple. Je sais pas si ça sera dans le jeu final, mais c'est le genre de choses qui sont les deux côtés sont très très liés entre eux, on va dire.
Ils avaient parlé pour le PVP, quand il fallait pour les objectifs de construire des stations pour récupérer les objets, par exemple, ce sera des trucs PVE.
Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc il y a eu effectivement une autre interview sur MMORPG. Donc on en a retenu trois points qui ne sont pas passés dans l'interview de Joel. Le premier étant que le système de badge a l'air d'être toujours en train d'être travaillé et que pour l'instant, il a l'air toujours aussi intéressant.
Est-ce que, alors je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, Torgul, ou même toi, Mathias, est-ce que c'est comparable au système qu'il y avait dans World of Warcraft concernant les BG?
N'ayant pas beaucoup joué aux BG de World of Warcraft, je peux pas te dire.
D'accord. T'as beaucoup miné.
Ouais, voilà.
Il a beaucoup bu aussi.
Ah bah un nain qui mine non. Se doit de boire, c'est normal.
Ça fait partie du minage.
Voilà.
Plus sérieusement, non, je pense que c'est un petit peu différent quand même, parce que les récompenses dans les BG de WoW, je crois que si je me souviens bien, c'est des objets qu'on peut utiliser. Alors que là, si j'ai bien compris le système de badge, c'est plus une décoration que tu accroches sur ton... sur ta poitrine ou sur ton truc, et tu dis, tu l'as fait, et voilà.
Ah oui, c'est pas mal, ça donne un statut derrière.
C'est vrai, il y a ces deux directions.
Pour la renommée de l'avoir fait.
D'accord.
Est-ce que c'est un système aussi similaire de l'autre haut
Ah d'accord, oui, avec les noms. Enfin, les titres, pardon.
Pour l'instant, je ne sais pas.
Je ne sais pas dans quel détail, enfin, quels sont les détails des médailles et des achievements. Je ne trouve pas le nom en français. Des récompenses, voilà, tout simplement. Merci. Je sais pas dans quelle mesure ça sera intégré au jeu final, mais je sais que c'est un point qu'ils veulent développer aussi bien autant que les missions PVE ou le PVP par exemple. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu débloques soit pour avoir un statut auprès des autres fans, genre t'as fait quelque chose de formidable, d'exceptionnel dans le jeu, donc t'as une médaille ou t'as un titre ou un nom qui te donne une reconnaissance vis-à-vis de la communauté, ou si ce sont vraiment des objets uniques ou choses comme ça, ça je ne sais pas encore. Mais c'est un point qu'ils sont travaillés.
Après,
c'est
vrai
que
c'est
difficile parce que je ne peux pas entrer trop en détail vu qu'ils n'ont pas encore complètement terminé. Ils sont encore en train de le développer.
Non, puis après, chacun interprète un petit peu les interviews à sa façon, donc c'est difficile d'avoir un point de vue où tout le monde se rejoint. Donc, pour le point suivant, c'était en propos du PVP. C'est en gros, à quoi doivent s'attendre les joueurs quand ils vont s'engager dans le PVP. Donc, PVP sauvage, PVP organisé, Mathias.
Alors, qu'est-ce que tu entends par PVP sauvage et PVP organisé ?
PVP sauvage, pour moi, c'est dans les... Bon, on sait qu'il y aura des zones dédiées PVP. Mmh. Est-ce que ces zones seront juste des zones où on pourra se mettre dessus dans la joie et la bonne humeur, ou est-ce qu'il y aura des objectifs précis dans ces
D'accord.
zones, par exemple ?
Donc en fait, t'auras... Déjà, faut juste, pour rappeler aux auditeurs, il y a deux types de modes PVP. Il y a le PVP instancié, donc qui sont des battlegrounds ou qui sont des zones fermées, où tu te bats avec les trois nations. Et il y a le mode PVP ouvert, qui sont vraiment des zones dans l'espace qui sont dédiées au PVP, mais
et
qui
se met ouvert aussi.
PVE. Voilà, c'est ça, oui. Qui contient aussi des éléments PVE. Et là où c'est intéressant, c'est que Lance, dans son interview avec MMORPG, précise le point suivant, c'est que il va essayer de faire des parallèles avec Dark Age of Camelot. Où justement le jeu, enfin le cœur du jeu, il le dit lui-même, le cœur du jeu, c'est la guerre entre nations, entre les trois nations. C'est-à-dire que le mode PVP est une façon de mettre en avant sa nation via la capture de zones, la construction de bases, la destruction de bases ennemies, ce genre de choses. Donc en fait,
le PVP sera organisé autour de ces événements.
Exactement, ça sera organisé autour du thème tu te bats pour ta nation. Tu appartiens aux Kantars, tu te bats contre tous ceux qui sont contre les Kantars, ouais. Tu construis ta station,
et alors,
des ressources, et ainsi de suite.
Ouais. Il y a un autre point qui a été soulevé, c'est est-ce qu'il y aura des sous-factions pour lesquelles on pourra travailler plus précisément, ou c'est vraiment juste la nation
Alors, pour l'instant, je ne peux pas trop en parler, il n'y a pas de détails là-dessus qui ont été communiqués officiellement.
Ouais.
D'accord.
Parce que des interviews précédentes, on sait déjà qu'il y aura probablement... des corporations, je sais pas si on peut assimiler ça à des sous-factions, mais je sais qu'on aura des corporations pour lesquelles on pourra travailler, par exemple.
Voilà, c'est ça. Il y avait un système de réputation qui avait été mentionné pendant l'interview, où c'est-à-dire tu fais des missions pour une sous-faction, et grâce à cette réputation, tu peux utiliser des stations de construction, de recyclage, ce genre de choses. Maintenant, faut voir comment ça va être intégré dans le jeu, vu que le gros du jeu, c'est le fait que tu travailles pour Kantar d'abord, si tu veux, ou pour Octavien, ou Sol Reign.
De ce qu'on avait compris pour l'instant, c'est que les corporations servaient plutôt pour le crafting que pour la politique du jeu en général. Enfin, la politique dans le jeu en général.
Jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est ce qui a été dit, oui. Juste pour terminer, ceux qui ne veulent pas être trop... ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête avec justement ce côté un petit peu rigide où tu te bats pour la nation, ils peuvent faire juste... le Battle Space, enfin le Battleground, où tu vas te battre contre d'autres nations, contre d'autres pilotes, dans un espace fermé. Où là, c'est vraiment juste le nombre de frags pendant une heure, et ainsi de suite.
Ouais, mais alors justement, à propos de ces Battlegrounds, est-ce qu'on sait s'il y aura les mêmes pénalités que dans le jeu ou pas, ou si ce sera plus du Counter-Strike, dans le même genre, c'est-à-dire où tu peux revenir dans l'action sans avoir à payer des frais de réparation, par exemple?
C'est un des points qui a été soulevé dans le débat du forum, et c'est un point très intéressant. Ouais. Ça a été remonté auprès des développeurs. Je crois qu'ils y réfléchissent encore, et ils ne s'en sont pas encore prononcés sur la version finale de ce genre de frais de réparation et de pénalités de mort. Donc c'est une question intéressante, mais ils n'ont pas encore tranché.
Parce que ça, c'est quand même un point important s'ils veulent en faire plus qu'un simulateur ou pas, comme ce qui avait été dit au début.
C'est certain, mais maintenant, on va dire que le thème du jeu a plus migré vers l'action.
Ouais.
C'est-à-dire vraiment le fait... Si tu veux, on compare souvent le jeu à EVE Online, et EVE Online, qui est un jeu vraiment très très bien fait, est plus dans dans la stratégie, si tu veux, et dans le fait que tu vas dans l'espace avec ton vaisseau, et si tu... Enfin, c'est un point qui différencie beaucoup de Junket, c'est que quand tu meurs dans EVE Online, tu perds ton vaisseau. Donc bien sûr, il y a l'assurance qui va te rembourser le vaisseau, mais dans Junket Evolution, c'est juste les frais de réparation qui te coûtent de l'argent. Donc tu vas pas t'amuser à tout le temps aller en kamikaze toutes les deux minutes, parce que ça te ruinerait, t'aurais plus de crédit à la fin, donc tu pourrais plus rien faire. Mais c'est vrai que c'est un point important, parce que ça met l'attention sur l'action. C'est-à-dire que t'as pas peur d'aller au combat, si tu meurs, tu vas réparer une fois, deux fois, trois fois, ainsi de suite. Mais c'est vraiment pour avoir des batailles épiques avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vaisseaux qui volent dans tous les sens, plein de missiles, plein de tirs de laser. Enfin, tu vois, c'est vraiment des grosses batailles à la Star Wars, un petit peu.
Ouais.
Ouais, mais comme l'a dit plusieurs joueurs sur le forum, il faudrait, à mon avis, deux systèmes. Un pour le PVP instancié et un autre pour le PVP ouvert.
C'est vrai que ce serait pas bête, mais bon, c'est aux développeurs de faire le choix. Toutes ces informations, ouais, ça n'est pas, ils sont remontés. Hein. Mais c'est vrai que c'est les développeurs qui font leur bébé, quoi.
Ouais. Puis c'est des débats qui reviennent tout le temps, donc à
bien
force,
sûr. Ouais, ouais,
on s'y perd un petit peu.
Ouais. Okay. Mais bon, le point final de l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas encore tranché.
Voilà.
Antonev, est-ce que tu nous fais un prochain sondage avant la fin de l'année?
Oui, mais il faudra que je trouve un sujet qui...
J'ai un sujet à te proposer. Je sais pas si je te le donne maintenant. Non, quelque chose de tout à fait sérieux. Il y a un point qui a été beaucoup évoqué. Herman nous avait répondu dessus. C'est la piraterie. Sur le même principe, on peut ouvrir le débat avec les joueurs qui proposent plusieurs solutions qu'ils ont en tête. Il faut juste se souvenir de cette phrase qu'Herman avait dit, qui était très bien. Le système de piraterie, on est prêt à le mettre en place, mais il faut que ça soit aussi fun pour ceux qui sont les pirates que pour les victimes.
Ouais, c'est ce qu'il avait dit, effectivement.
C'est la grande phrase à retenir pour trouver la solution. Et si quelqu'un trouve cette solution vis-à-vis de cette phrase, je pense que les développeurs sont aptes à...
Je t'envoie par ça et puis je te sors le sondage lundi.
C'est parfait. Il suffisait de demander.
Ah oui. Ah, faut voir s'ils veulent s'ils veulent faire le même système de piraterie que Eve, enfin le même. Un qui ressemble ou un qui est entièrement propre à Jumpgate.
C'est ouais, tout à fait, c'est eux qui voient, mais les joueurs peuvent avoir des idées que les développeurs n'ont pas, ou des pistes d'idées en tout cas, donc. Plus on sera nombreux à répondre, mieux ça sera.
Mais je pense que t'as bien résumé la phrase, Brugnard. T'as bien expliqué que c'était le fait qu'il faut pas que ça pénalise un des deux côtés.
Voilà.
Il faut que les deux aient plaisir à avoir des pirates dans le jeu. Et c'est ça qui est difficile.
Mais après, il faut accepter qu'à MMORPG, tu peux être la victime de quelqu'un. Si tu joues à un jeu en étant tout à fait sécurisé en permanence, ça reste pas drôle. Donc,
bien sûr. Justement,
être une victime en soi, ce n'est pas drôle. Mais il faut l'accepter si c'est pas trop méchant.
Ouais.
C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, en fait.
Ouais.
Sinon, autant aller sur un jeu solo.
Par contre, c'est un système de piraterie, c'est-à-dire qu'il y aura un système, c'est-à-dire qu'il y aura du PK. Enfin, du... Comment dire? Du tirailier.
Ouais, oui et non.
Ça dépend
là aussi,
ils ne sont
pas encore tranchés. Voilà, c'est ça. Là aussi, ils ne sont pas encore tranchés. Hein. Ils ont dit qu'ils pouvaient l'activer ou le désactiver, mais qu'ils n'avaient pas encore décidé de la manière dont ça serait dans le jeu.
Mais par exemple, un pirate, il peut s'attaquer, enfin un pirate Solrain, il attaque un autre vaisseau Solrain.
Oui, mais la question à ce moment-là, c'est comment tu détectes un pirate d'un vaisseau normal?
Il faudra qu'il se tague en pirate, un truc comme ça.
Ouais.
Enfin, il faut réfléchir.
Ça pose aussi la question de le cœur du jeu, c'est la nation. Tu vois, quand t'es Solrain, tu restes Solrain jusqu'à la fin, quoi.
On peut être Solrain et puis entrer dans une faction pirate.
À la limite, ce qui serait bien, c'est que tu changes de vaisseau, que tu aies un vaisseau d'une quatrième race pirate.
Ça avait été soulevé comme idée.
Ça avait été
soulevé.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faudrait créer un système entier de vaisseaux et tout pour.
Ouais, et là, ça deviendrait encore plus compliqué. Parce que tout l'équilibrage est basé sur une sorte
de système neutre, une sorte de sous-nation. C'est-à-dire qu'il y aurait un seul type de vaisseau. Pour que ça soit Solrain, Quentin ou... Parce qu'on peut être Solrain pirate finalement. Mais ça serait le même type de vaisseau pour les trois nations. Qui jouerait dans le jeu en fait. Donc il n'y aurait pas besoin de recréer tout un système spécial pour ça.
Je sais pas parce que...
Non mais de toute façon on va trop loin.
Ça ferait bizarre quand même.
Ça fait partie du débat qu'il faut que tu proposes.
Ouais, je crois que ça va trop loin parce que les développeurs ils ont vraiment dit les pirates on le voit d'un très mauvais oeil pour l'instant, bien sûr plus tard on verra, mais à la sortie on veut vraiment que trois nations. Et ils expliquaient que pour eux la piraterie c'était pas la manière classique de voir les pirates qui attaquent n'importe qui, c'était de pouvoir justement contrôler en tant que nation des zones qui donnent des ressources. C'est-à-dire que tu contrôles une zone PVP où il y a une station qui te permet de construire un item qui est qui a beaucoup de valeur. Ça serait pour eux la piraterie dans le sens où tu gardes les trois nations qui se battent l'une contre l'autre. Pas dans le sens... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, ben, la piraterie, pour moi, c'est le sens classique où tu es pas seul au monde. Mais tu vois, tu es un rebelle, tu te bats contre tous ceux qui sont contre toi, tu voles, et ainsi de suite. » Et c'est pas exactement comme ça que les développeurs veulent l'avoir.
Eux, ils voient ça comme des corsaires, des pirates qui travaillent pour le compte de leur nation.
Exactement. Exactement,
Un peu l'esprit phénixien, finalement.
Non, mais sans reparler de l'escouade, forcément, on est. Ouais. Parce qu'on ne veut pas d'alliance, donc c'est un peu cet état d'esprit d'escouade mercenaire, on va dire.
D'accord, ouais. C'est vrai que corsaire est le terme plus approprié, je dirais.
D'accord.
Ouais. Quoique les corsaires, ils faisaient ça que pour l'argent.
Oui, non bien sûr.
Voilà, c'est pour alors que là, tu fais aussi un petit peu pour la nation.
Non.
Un pirate, c'est un rebelle.
C'est juste pour nous mettre sur la gueule. Non, on ne dévoilera ce point-là officiellement que lorsque le jeu sera sorti.
D'accord. Donc si vous voulez bien, on va parler juste du dernier point de l'interview des MMORPG, c'est la manière dont les développeurs ont réussi à rendre l'impression de profondeur dans l'espace. Donc Lance Robertson répond à cette question.
Ce que je retiens, Torgul, dans cette question et réponse, c'est le fait qu'ils remplissent les aires de jeu avec beaucoup de choses à faire et participer à ce qui renforce aussi le sentiment que l'univers est vivant. Voilà, c'est la phrase qui avait été écrite, et c'est vrai que ça donne envie de jouer parce qu'on se dit, ben, on va pas s'ennuyer, finalement il y aura toujours quelque chose à faire dans cet univers.
C'est vrai. Je reprends sur ce que tu viens de dire, Brubru, juste pour expliquer qu'en fait, pour lui, enfin pour Lance, dans son interview, il dit qu'il y a deux éléments qui sont importants pour rendre l'univers vivant. D'abord, c'est ce qu'il appelle les skyboxes, donc le background, le décor de chaque zone, fond, ouais. Où il y a justement voilà, le fond, ouais. Avec, qui est très coloré, qui montre par exemple des planètes en train de se détacher. Donc tu vois un énorme pan de la planète qui est en train de s'éloigner du cœur principal. Ce genre de choses qui donne une impression d'espace vivant et excitant presque. Enfin, tu vois, tu es intrigué, tu te demandes ce qui s'est passé. Ça te donne... À chaque fois que tu changes de zone, tu as un nouveau décor. Et l'autre côté, c'est de rajouter des choses qui sont intégrées par les développeurs, par les artistes. Donc des astéroïdes, des stations, des vaisseaux dans tous les sens, ce genre de choses.
Et des choses un peu plus interactives. Hein.
Voilà. Exactement. Donc c'est ces deux éléments-là qu'il dit qu'il est important de jouer, mais il explique qu'il est aussi très dangereux d'en faire trop et de rendre un espace si vaste qu'en fait personne n'ira jamais dans les coins les plus éloignés parce que c'est pas intéressant. Il faut voler pendant des heures sans rien faire, quel intérêt ? Donc il dit c'est important d'avoir des espaces qui donnent l'impression d'être vastes tout en concentrant l'action sur des zones principales. Parce que si l'espace est trop grand, ça sera difficile de réunir beaucoup de monde dans une bataille.
Ouais, bah c'est un peu le même principe que ce dont vous parliez au dernier podcast, c'est-à-dire le remplissage de l'univers, même s'il n'est pas aussi rempli que ça.
Exactement, ouais. Il faut jouer sur ces deux éléments et c'est important de ne pas tomber dans l'un ou l'autre extrême. Il ne faut pas le faire trop petit, il ne faut pas le faire trop grand non plus. Donc pareil, on revient au sujet habituel de l'équilibrage. L'équilibrage des zones, du remplissage des zones.
Toujours l'équilibrage. Donc je pense que là on a fait un petit peu à peu près le tour de toutes les enfin des deux interviews donc
tout à fait oui là-dessus non j'avais une question alors c'est un peu en rapport j'ai beaucoup de questions ce soir oui effectivement mais je parle au nom de beaucoup hein. C'est des questions qu'on me remonte concernant le PVP instancié et plus précisément les stations contrôlées. Donc ça faisait partie en plus des questions là dans l'interview.
Les stations contrôlées,
elles sont dans l'espace non instancié.
C'est dans l'espace non instancié ?
Voilà.
C'est bien ce que j'avais compris.
D'accord.
C'est dans les zones PVP ouvertes. C'est pas dans les zones où t'as juste une seule map où tout le monde se tire dessus.
Donc ça, je pense que ça va répondre à ma question, mais je la pose quand même pour être sûr.
Ouais.
Donc ça sera du combat continu ou ça sera par période au niveau du contrôle de ces stations ?
D'accord, je comprends. En fait, il y a effectivement des... Alors c'est pas forcément des stations, mais c'est des tags, des beacons, enfin tu vois des petits éléments.
Oui.
Par exemple dans un des éléments de Battleground, donc dans l'espace instancié, tu as justement une station qui est au milieu de la map et on peut y aller pour essayer de la contrôler, si je me trompe pas. Mais en ce qui concerne le PVP ouvert, donc l'espace non instancié, ce sera des stations où il faut d'abord contrôler la zone, donc expulser tous les ennemis ou en tout cas les virer en dehors de la zone de contrôle de la station. Mmh. Et ensuite, une fois que tu contrôles la station, tu peux lui apporter des ressources pour qu'elle continue à marcher et à fonctionner, et tu peux lui installer des éléments en plus, tu peux débloquer certains éléments de la zone pour avoir des ressources supplémentaires ou des avantages sur les autres nations, et ainsi de suite.
D'accord, donc c'est continu en fait le combat à ces
C'est continu, ouais. Il y a toujours un intérêt à garder la station et à faire que ta nation contrôle le plus longtemps possible cette zone.
Et c'est de là que quelqu'un m'a donné l'idée, alors chez Phoenixus c'est pas encore prévu, c'est de faire les 3-8 finalement, pour assurer une permanence régulière à ces stations.
C'est pas bête. On a vu dans d'autres MMO qui sont déjà installés sur le marché, où il y a beaucoup de stratégies de ce style-là, si tu veux. C'est qu'on attaque un ennemi quand on pense qu'il est en train de dormir, comme ça il réagit moins vite.
Exactement.
Ou alors on l'attaque quand il y a le moins d'alliés possibles qui sont connectés, enfin ce genre de choses. Mm. Ouais, non, c'est vrai que c'est important, hein.
Donc, mais c'est très bien le combat continu parce que justement ça permettra de beaucoup tourner et non, c'est pas mal.
C'est le cœur d'un MMO, hein. C'est comme ça qu'un univers persistant marche.
Bah, ça donnera tout l'intérêt justement, mais ça se tournera principalement autour du craft, mais autour de ce craft, bah, finalement il y aura le combat. Donc ça va faire, ça va générer une économie permanente finalement, qui sera très bien pour le jeu.
Mais en même temps c'est dangereux parce que bon, par exemple la majorité des joueurs francophones, ils vont jouer le soir vers 8h. Par exemple,
t'auras
la majorité des combats qui se passera à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu fais quand il y a un ennemi qui vient attaquer ta base et qu'il est 5h du matin?
Faut pas que les bases soient trop faciles à conquérir non plus.
Après, ça dépend aussi des serveurs. Si on a un serveur unique ou si c'est un serveur par zone.
C'est un serveur européen normalement.
C'est pas encore défini, on n'a pas encore de détails à ce sujet.
Si, ça avait été donné, Herman avait dit serveur US, serveur européen.
Herman,
il est plus là.
Je pense que ce qu'il avait voulu dire, c'est qu'il y avait deux systèmes différents, si tu veux. C'est qu'il y aurait ce qu'il voulait dire par serveur, si j'ai bien compris, c'était un endroit où tous les serveurs européens sont groupés en Europe pour éviter le lag, et un serveur aux États-Unis pour éviter le lag pour les joueurs américains.
D'accord, donc on sait même pas s'il y aura du serveur pur français alors finalement.
Bah, c'est pas encore décidé, donc je sais pas, tout ça c'est que des hypothèses.
Et une autre question alors à propos des serveurs qu'on m'a posé aussi cette semaine, je sais pas si tu vas avoir la réponse, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes que pourra accueillir chaque serveur?
On n'a pas d'idée, non.
On a aucune idée, d'accord.
Il y a toujours des caractéristiques techniques qui sont semblables dans chaque MMO, mais on n'a pas le chiffre exact, et même si on l'avait, je sais pas si on pourrait le communiquer.
En tout cas, il semble qu'il y avait un chiffre qui avait été communiqué.
Ah oui,
c'était de l'ordre entre 3000 et 5000 personnes par serveur, un truc comme ça.
Oui, mais ça m'étonne même pas parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les mémos, hein, si tu veux.
Ouais, voilà.
Dommage que vous tapez pas sur le même niveau que Eve, ça aurait été bien.
C'est vrai qu'Eve Online avec son serveur unique, c'est très intéressant ça.
Bah, 45 000 personnes en soirée, c'est énorme.
Ça a un gros impact, ça c'est sûr.
C'est pas le même style de jeu.
Les batailles et tout, c'est assez épique quand même.
Ouais, mais c'est vrai que c'est pas le même style. Tu contrôles pas ton vaisseau de la même manière.
Bah ça.
Mais je dis pas que l'un ou l'autre est mieux, hein. C'est des styles de jeu différents, et moi je suis content qu'il y ait les deux jeux qui existent Eve Online est déjà sorti bien sûr, mais je suis content qu'il y ait d'autres alternatives.
Tout à fait. Parce que c'est sympa de voir par exemple des batailles entre corporations de 1200 joueurs qui se tapent dans la même zone.
Ah oui, ça c'est énorme. C'est vraiment incroyable. Assez énorme.
Ouais. Donc voir. Ouais. La possibilité de voir ce genre d'événement sur Jumgut, ça aurait été aussi magnifique.
Bah, c'est ce que les développeurs vont essayer d'atteindre. Hein. Ils veulent vraiment des batailles comme ça où il y a beaucoup beaucoup de vaisseaux et où ça prend une ampleur tellement énorme que tout ce que tu as envie de faire, c'est rejoindre tes amis de la guilde et te mêler au combat. Quoi.
C'est sûr. Alors,
on attend que ça, effectivement.
Ouais, on attend que ça.
On est prêts, nous. On est prêts.
Ça fait deux ans qu'on est prêts.
En tout cas, messieurs, merci d'être venus ce soir. Hein, ça va clôturer le podcast épisode 2 donc, de Skynet.
Bah, merci à toi de l'organiser.
Ben, c'est normal, ça me fait plaisir. On espère faire plaisir aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui nous écouteront dans le futur. Juste pour rappel, à propos de Skynet, donc, nous ne ferons pas de communication sur tous les fansites et tous les autres sites quand un nouveau podcast sortira. Là, je le ferai exceptionnellement sur le forum officiel. Mais c'est bien sûr à vous de venir de vous-même sur Skynet, vérifier qu'un nouveau podcast ou une nouvelle news est sortie. Et pour tous les chefs ou administrateurs de fansites et des squads, c'est aussi à vous de faire la démarche de me contacter par MP si vous voulez afficher une news ou quoi que ce soit. C'était un petit rappel. Encore une fois, merci messieurs. Et puis, peut-être à la prochaine.
Merci à toi.
À la prochaine fois.
Bonne soirée,
à
salut.
Bonne soirée à tous.